Aujourd'hui, dans Enjeux de santé, nous nous intéressons à une maladie pouvant rendre le quotidien douloureux et invalidant d'une personne sur 10, l'endométriose. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique qui touche la muqueuse qui tapisse l'utérus, l'endomètre. Cette muqueuse se développe tout au long du cycle menstruel et s'élimine naturellement au moment des règles en l'absence de fécondation. Chez la personne atteinte d'endométriose, le processus est altéré par un développement de l'endomètre en dehors de l'utérus, sur les organes génitaux, mais également entre le vagin et le rectum, sur la vessie, les intestins ou de façon plus rare sur les poumons. Ces lésions vont créer des adhérences entre les organes qui vont se coller entre eux. Tous les mois, ces morceaux d'endomètre vont répondre aux hormones du cycle menstruel comme s'ils étaient dans l'utérus. Ces lésions vont donc saigner et provoquer des inflammations et des douleurs. Les symptômes de cette maladie sont visibles et passent notamment par des douleurs aiguës au moment des règles, des rapports sexuels douloureux, des saignements anarchiques, des troubles intestinaux et urinaires aggravés pendant les règles, des douleurs au dos ou encore des difficultés à marcher. Ces symptômes ne sont pas obligatoirement tous ressentis, mais peuvent mener à la piste de l'endométriose. Pourtant, le diagnostic met en moyenne 6 ans à être posé, raison pour laquelle il est nécessaire de libérer la parole afin de faire sortir de l'ombre cette maladie encore trop méconnue. L'endométriose est également une cause importante d'infertilité. C'est le cas notamment d'Edwin, auteur du livre « Encore un Noël sans bébé » qui nous parle de son combat contre la maladie.
Comme toutes les jeunes femmes, quand j'ai été réglée, j'ai eu un petit peu des douleurs au ventre, des douleurs plus ou moins importantes et puis finalement de plus en plus importantes. Et j'allais voir les médecins en disant que j'avais mal, mais en fait, j'étais un peu une chochotte. J'étais un peu la malade imaginaire, donc j'avais des médicaments comme tout le monde a eu certainement. Et pour autant, j'avais toujours ces douleurs pendant les règles et même en dehors des règles. Après, j'ai eu une pilule, comme beaucoup de jeunes femmes. Et là, la pilule a un petit peu endormi tout ça, endormi la maladie. Et puis, à un moment donné, on a envie d'avoir un bébé, donc on arrête la pilule. Et là, malheureusement, les symptômes sont revenus très, très forts, vraiment à puissance 1000. Donc là, des douleurs en bas du dos, des douleurs pendant les rapports sexuels, des maux de ventre, même en dehors des règles. Et vraiment, une vie qui devient beaucoup plus handicapante parce que les douleurs peuvent arriver dans la demi-heure, dans l'heure qui suit, sans prévenir, quoi, sans explication. Et c'est par hasard, en voyant un médecin plus spécialiste pour concevoir un enfant, il m'a posé quelques questions et lui, en 5 questions, il m'a mis un nom sur la douleur et c'était de l'endométriose. J'avais un souci pour avoir un enfant, donc on pensait que j'étais peut-être infertile, mais en fait, cette infertilité était due à l'endométriose. Et le fait de détecter l'endométriose plus tôt, on aurait pu la soigner plus rapidement, l'opérer ou me donner juste des médicaments pour empêcher qu'elle se propage et qu'elle touche les ovaires, la réserve ovarienne, et du coup bloque après le fait de porter un enfant naturellement. Elle a attaqué les trompes, en fait. Donc, schématiquement, on a les ovaires qui sont reliés, qui par des trompes sont reliés au col de l'utérus. Donc moi, la réserve des ovaires qui donne des petits ovocytes, les ovocytes ne pouvaient pas descendre le long des trompes pour aller dans le col de l'utérus parce qu'il y avait des endométriums un petit peu partout, tout le long des parois. Et ça empêchait, en fait, l'anidation, ça empêchait d'avoir un bébé. J'étais un peu plus jeune, donc les choses ont évolué depuis. Mais je pense que les médecins ne connaissaient pas la maladie, ne connaissaient pas les symptômes. Donc, ne savait pas identifier la maladie face à quelques symptômes qu'une femme pouvait ressentir. Donc, il y avait cette méconnaissance médicale. Et puis, je pense aussi le manque d'écoute du patient. Donc, je pense que déjà, le patient, il faut vraiment oser en parler. Après, ça touche à l'intimité, donc ce n'est pas forcément évident. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. Après, il faut que le médecin connaisse la maladie, donc connaisse les symptômes principaux. Et puis ensuite, il faut aller vers des spécialistes de l'endométriose, des médecins, des chirurgiens qui connaissent cette maladie et qui savent comment la traiter. Donc, c'est vrai que chaque palier est important pour qu'au final, on connaisse la maladie, on la reconnaisse. Donc, ce qui manque aujourd'hui, je pense, c'est une communication sur le sujet. Et c'est pour ça aussi que je me suis lancée, moi, dans cet écrit, pour que ça aide les femmes à oser en parler et à être soignée à temps pour avoir des enfants notamment.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont des douleurs assez jeunes quand elles commencent à être réglées et quand elles vont voir même des spécialistes, des gynécologues, on leur prescrit la pilule pour atténuer ces douleurs-là alors que ça n'aide pas forcément à soigner la maladie.
En fait, ça endort la maladie, je pense, ça la met en sommeil, mais la maladie n'est peut-être pas encore détectée et effectivement, si on la détectait, on mettrait peut-être un autre traitement en face qui permettrait d'éviter d'avoir des soucis 15 ans après, quand on veut avoir un enfant notamment. J'ai eu une grosse opération parce que finalement, quand elle a été détectée, elle était très répandue en fait dans l'organisme parce qu'elle se répand et sur l'utérus et également elle peut migrer sur des organes à l'extérieur. Donc en fait, elle a le même processus qu'un cancer sans être mortel, mais elle se propage en fait vraiment de manière très importante. Donc moi, c'était très avancé. Donc j'ai eu une grosse opération qui m'a redonné un quotidien très agréable, les 6 mois qui ont suivi, mais ensuite je suis rentrée dans un protocole de procréation assistée pour essayer d'avoir un enfant. Donc j'ai eu à nouveau beaucoup de doses d'hormones et le fait de stimuler, ça réengrange un petit peu plus rapidement le retour de l'endométriose. Donc moi, elle est revenue. Donc c'est vrai que le quotidien est à nouveau assez compliqué, les douleurs sont quand même assez présentes, mais pour autant il y a des médicaments qui permettent de neutraliser le cycle des règles, des ménopauses artificielles en fait. Donc ces médicaments-là, il faut les supporter parce qu'il y a des effets secondaires, mais ça permet quand même de vivre mieux le quotidien. Ça n'enlève pas tout, il y a quand même certaines douleurs qui restent, mais on vit quand même mieux que quand j'avais rien du tout. Aujourd'hui c'est un jeu d'hormones. C'est un jeu d'hormones. Donc, c'est vrai que se mettre en ménopause artificielle, c'est bien. Après, voilà, physiquement, on n'a pas l'âge d'être en ménopause artificielle. Donc, ça peut engendrer d'autres effets secondaires qui sont assez indésirables. L'ultime solution, si c'est une solution, c'est de carrément faire une hystérectomie. Là, c'est un autre degré. Les médecins ne sont pas non plus pour parce que, ben voilà, c'est enlever quand même quelque chose de son corps. C'est pas évident. Mais il y a des progrès qui sont faits, il y a des études qui sont faites pour trouver justement d'autres palliatifs et puis aider à soulager cette maladie.
C'était un besoin pour vous de raconter votre histoire ?
Je suis assez timide, assez réservée à la base. Donc c'est vrai que moi et mon mari, on n'en a pas trop parlé à notre famille parce que c'était une période assez difficile à vivre. Donc j'ai eu besoin d'écrire, de raconter un petit peu tout ça. Mais d'abord pour moi, c'était salvateur. Moi, ça m'a libérée de l'écrire, de coucher tout ça sur le papier. Et puis ensuite, on l'a partagé à notre famille. C'était légitime qu'ils comprennent ce qu'on avait traversé et comment on l'avait vécu et notre ressenti. Et puis quand ils l'ont lu, ils ont trouvé ça plutôt bien. Ils ont trouvé ça utile pour eux. Ça leur a beaucoup donné d'informations. Ils m'ont poussé en fait aussi à communiquer plus large. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le diffuser. Et je me suis dit, après tout, si moi ça m'a aidé, d'autres personnes, d'autres femmes vivant la même chose peuvent peut-être trouver un petit réconfort et se dire qu'elles aussi, elles ne sont pas toutes seules à vivre ça et à avoir ces douleurs. Ce qui a été compliqué pour moi, c'est de faire confiance en fait aux médecins parce que j'aime bien tout maîtriser. Donc c'est vrai que quand on nous dit tout d'un coup, bon bah en fait vous n'êtes pas une chochotte, les symptômes que vous avez réellement un problème, vous avez réellement une maladie, mais pour être sûr, je vais faire un deuxième examen et puis un troisième examen, un quatrième, et on a l'impression de faire que des examens et à chaque fois se prendre une mauvaise nouvelle et se dire mais à quel point je suis atteinte en fait, à quel point je suis malade et comment est-ce qu'on va s'en sortir dans cette histoire-là, parce que nous ce qu'on veut c'est juste être heureux et avoir un enfant et à un moment donné on a l'impression d'avoir tout le poids du monde, réellement. On se dit quand est-ce que je ressors et dans quel état je ressors, c'est un petit peu panique à bord, donc oui c'est très médicalisé, c'est assez difficile à vivre et puis au bout d'un moment on est rodé à l'exercice et ça fait partie du quotidien. Et puis nous le but était toujours le même, c'est d'aller au bout, de ne pas regretter, d'essayer d'avoir cet enfant, de soigner cette maladie ou d'aller au-delà en tout cas de la maladie pour notre objectif. Pour avoir un enfant maintenant c'est terminé, on a été nous au bout des essais qu'on pouvait faire, donc on s'est arrêté là et puis physiquement comme moralement c'est assez difficile à encaisser. Mais par contre au niveau de la maladie, ben on essaye, on va dire, un petit peu différents traitements de ménopause pour voir ce qui peut me convenir le mieux au niveau des hormones et au niveau des effets secondaires pour essayer de bien vivre avec cette nouvelle copine qui est l'endométriose. Il faut surtout aller consulter, en parler à des médecins, à des gynécologues, parce que plus tôt on en parle, même si c'est ridicule, même si au final on se trompe, c'est pas grave, on est sûr ou d'avoir le bon diagnostic ou de pas avoir d'endométriose, mais c'est surtout oser dire la douleur, oser en parler et éviter comme ça d'avoir les mêmes soucis que nous on a pu avoir 20 ans plus tard. J'ai pas contacté des personnes, j'ai lu beaucoup de choses en fait. J'ai lu beaucoup d'articles, c'est vrai que toutes les associations ont beaucoup d'informations. Donc moi rien qu'en allant sur les sites, les infos que j'avais me convenaient. Après d'autres personnes ont besoin d'en parler, il y a des groupes de parole pour ça. Même au sein des hôpitaux, il y a des réunions en fait aussi avec des psychologues qui sont proposées. Moi j'ai pas eu ce besoin-là, je sais que d'autres personnes en ont le besoin.
D'autres personnes atteintes de la maladie qui peuvent notamment se tourner vers EndoFrance, dont j'ai rencontré la représentante régionale Corinne, accompagnée de trois autres membres de l'association, Estelle, Marie et Maëlle, qui vont nous parler de leur parcours face à la maladie et de l'action d'EndoFrance.
C'est une association qui a 16 ans d'existence. Nous sommes la première association française pour la lutte contre l'endométriose. Nous avons 1000 adhérents. Nous avons la chance d'avoir un comité médical avec des experts reconnus au niveau de la gynécologie en France. Nous sommes d'intérêt général. Nous sommes là pour soutenir les femmes et leurs familles, informer par le biais des conférences et agir auprès des pouvoirs publics pour une meilleure prise en charge et pour faire en sorte que l'assurance maladie, l'éducation nationale et toutes les instances qui sont importantes pour gérer notre maladie au quotidien, on leur fait des courriers Et en tout cas, c'était l'année en fait où on a beaucoup écrit au CPAM et au rectorat aussi pour essayer de faire auprès des CPAM une sensibilisation pour que l'endométriose soit prise en compte et que les femmes qui sont vraiment très atteintes puissent être soignées, épaulées par l'assurance maladie. Au niveau du rectorat, c'est pour faire de l'information au niveau des lycées et des collèges. Ça se fait déjà en Normandie et on essaye de le développer dans tous les départements. On agit quasiment au quotidien avec les médecins pour parler avec eux et voir un petit peu leur rapport à la maladie et aux patientes. Les médecins, heureusement quand même, ils connaissent l'endométriose. Par contre, il n'y a pas une endométriose, il y a des endométrioses. Et comme la douleur, c'est très personnel, tous les médecins n'ont pas l'écoute nécessaire auprès des femmes, en fait. On peut encore entendre, ça ira mieux quand vous aurez un enfant, prenez du Doliprane, ça va passer.
C'est dans la tête, c'est psychologique, voilà, c'est vous êtes une chochotte, mais non, ça fait pas mal, c'est une idée. Et au fur et à mesure, c'est vrai que beaucoup d'endo-girls ont des difficultés à faire confiance aussi, des fois, au corps médical. Alors, c'est en train de changer, ça change doucement, parce que même si c'est une maladie qui, en fait, existe depuis longtemps, elle n'a pas été nécessairement enseigner en faculté ou alors très rapidement à tel point que par exemple donc moi j'ai eu mes règles à 13 ans mais par contre j'ai été diagnostiquée à 41 ans. Donc vous imaginez le nombre d'années pendant lesquelles j'ai entendu c'est dans la tête, etc. Un Doliprane, ça va passer. Puis quand vous commencez à avoir des médicaments qui deviennent de plus en plus forts pour pouvoir passer la douleur, là vous commencez vraiment à vous dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et malgré cela, les médecins ne vous entendent pas tous. Et on a un délai entre nos douleurs et le diagnostic qui fait que la maladie progresse un petit peu en silence. Sans exagérer, moi je vais dire que j'ai perdu 20 ans de diagnostic.
Moi, j'ai été diagnostiquée, je devais avoir entre 20 et 24 ans, et je souffre depuis le départ de mes règles, c'est-à-dire que j'ai dû les avoir vers 12-13 ans, on m'en a dû mettre sous pilule parce que peut-être on pensait à ça, je devais avoir 16-17 ans, et là, du coup, j'ai loupé le collège, j'ai loupé le lycée, en fait, ça grignote votre vie petit à petit. On ne s'en rend pas bien compte parce que ça monte crescendo, la douleur, et en fait, on se dépatouille comme on peut, c'est-à-dire qu'on est rendu à se dire, ah ouais, moi, c'était assez régulier, donc je savais que deux jours avant, j'allais me mettre sous médicaments, que quand j'avais des douleurs qui me prenaient subitement, il fallait que le médicament agisse. Donc, je m'allongeais, j'attendais à peu près trois quarts d'heure que ça agisse, avec la vieille bouillotte d'eau chaude qui, elle, fonctionne très bien.
Ça marche très bien, oui.
Qui fait qu'il ouais. Faut surtout pas se crisper, il faut se détendre. Enfin, on apprend à gérer un peu ça. Et ce qui est atroce, c'est qu'on apprend à vivre avec la douleur. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Par contre, la colère, elle reste toujours. C'est-à-dire que ça fait... j'ai souffert pendant une vingtaine d'années, j'ai eu plusieurs opérations. Mon parcours est un peu compliqué. Au final, c'est assez fou, c'est qu'on arrive à s'habituer à cette douleur, à s'organiser autour, jusqu'au moment où on arrive à trouver un médecin qui nous écoute. Et même là, il faut encore être vigilant parce que y a l'écoute... Il y a beaucoup d'examens qui sont extrêmement désagréables. On a l'antise de passer, même si c'est juste des scanners colorectales, des endoscopies rectales, des IRM. Même l'IRM, elle n'est pas anodine, c'est vraiment très désagréable
c'est
à
pas
passer.
Agréable.
Et même là où on pense être bien suivi, il se trouve que la maladie continue, qu'à l'IRM, on ne voit pas tout. Et que certains médecins, après, font un suivi plus ou moins léger. Et du coup, il faut se prendre en main. En fait, c'est une maladie où il ne faut pas attendre que le médecin, même si on a trouvé, entre guillemets, le bon, vous dise « faites ci, faites ça ». Il faut être en avant, il faut beaucoup s'écouter et il faut surtout prendre en main et insister.
Il faut savoir que c'est une maladie. En fait, les médecins sont comme nous. Ils progressent, ils apprennent, ils ne connaissent pas déjà la cause. 95% des femmes ont un reflux, c'est-à-dire le sang qui reste, entre guillemets, dans les trompes ou vers les ovaires, etc. Sauf que la femme normale arrive à s'en débarrasser. Chez nous, les endo-girls, on n'arrive pas. C'est-à-dire que ce sang qui séché, qui va coller, il va coller les organes entre eux, il va se comporter ensuite exactement comme l'utérus. C'est-à-dire que sous l'effet des hormones, le sang va se transformer en endomètre et réagir exactement comme le fait l'utérus. C'est-à-dire prêt à accueillir un enfant, mais si justement on n'a pas d'œuf fécondé, donc pareil, ça va saigner et ça va réagir encore en faisant de la colle avec les autres organes, etc. etc.
Et c'est très inflammatoire en fait.
En plus.
Très inflammatoire, c'est pour ça qu'on a mal, en fait. Ça saigne dans le ventre et c'est inflammatoire. Le problème, c'est que c'est dans le péritoine, à l'intérieur du ventre, et ça se colle sur les organes.
Voilà, y compris les intestins, la vessie. C'est les champs privilégiés, mais bon, peut même y avoir des femmes. Bon, c'est très exceptionnel, mais où ça monte diaphragme, ça monte dans les poumons.
Le premier signe de cette maladie, c'est la douleur. Alors, la douleur pendant les règles, pendant l'ovulation aussi, au milieu du cycle, pendant les rapports sexuels. Avec le temps, en fait, c'est des problèmes d'infertilité aussi.
Puis aussi, au niveau de la digestion. Cette maladie crée aussi, en fait, ce qu'on appelle des endométriomes, des petits kystes remplis, justement, de ce sang qui n'a pas pu s'écouler par les voies naturelles et qui forment, voilà, des petits kystes à côté des ovaires ou n'importe où, où ils ont envie de se placer. On peut en avoir dans les intestins, dans le rectum. Et donc, du coup, bien souvent, on a des problèmes digestifs liés.
Quand la maladie est bien installée, on peut avoir mal en permanence, en fait. C'est vraiment une maladie qui finit par être très invalidante et qui dure donc du moment où on est réglé jusqu'à la ménopause, en fait. D'ailleurs, la ménopause artificielle, c'est un des traitements qui nous est proposé. C'est pilule en continu ou ménopause artificielle pour essayer de ralentir la maladie. Et en fait, les médecins disent souvent qu'en fait, l'endométriose, c'est un cancer dont on ne guérit pas. On ne meurt pas, c'est bien. On ne meurt pas, mais en fait, on vit avec toute sa vie.
Ça engendre des actes chirurgicaux qui peuvent être très invalidants. Moi, j'en sors. Mon endométriose était située au niveau du côlon. Là, je me suis fait opérer il n'y a pas si longtemps. Il faut bien se rendre compte qu'en fait, des femmes perdent un rein parce qu'elles n'ont pas été diagnostiquées. Il faut vraiment comprendre que la chirurgie est très, très lourde et peut vraiment handicaper les femmes. Et voilà, c'est-à-dire que c'est pas fini. La ménopause, c'est le Graal pour nous. Il faut trouver son médecin, mais il faut être très vigilant.
Oui, il faut pas hésiter à se poser les bonnes questions, à prendre du recul aussi sur ce qu'on vous dit.
Nous, on conseille de se suivre avec la médecine classique, mais au niveau douleur et au niveau psychologique, pour se sentir mieux, les ostéopathes, les étiomédecins, les acupuncteurs peuvent nous aider aussi.
Le retard de diagnostic, il vient de ce manque de coordination un peu entre les médecins, de ceux qui connaissent vraiment bien les symptômes de la maladie, ceux qui découvrent un peu, ceux qui ont du mal à écouter les patients. Ça vient de ces choses-là combinées.
La première source, c'est la culture. Je pense que c'est culturel. Ah oui. Moi, j'ai 40 ans et en fait, nos mères de ma génération pensaient que avoir ces règles et souffrir, c'était normal. On prenait un cachet, une bouillotte et puis on attendait d'être maman, donc 20 ans plus tard. C'est déjà que la douleur n'est pas prise au sérieux pour des douleurs de règles. Je peux vous assurer que quand on tombe dans les pommes dans la cour du collège ou du lycée, ce qui m'est arrivé pendant 10-15 ans, c'est dommage que ma maman n'y ait pas pensé ou ne connaisse pas cette maladie. Et je me bats tous les jours pour éviter que si d'autres collégiennes qui tombent dans les pommes. La première chose, c'est que quand on est vraiment très malade pendant ces règles, il y a un problème, c'est pas normal. On doit pouvoir, avec des anti-douleurs classiques, parer ça. Donc déjà, c'est la culture. Et puis après, oui, c'est la formation des médecins, les recommandations qui n'ont pas été revues depuis 2006 pour diagnostiquer et traiter la maladie, parce que les médecins sont aussi démunis, ils n'ont pas un panel de médicaments ou de pilules suffisamment large. Et puis, il y a eu toute une technique aussi, toute une technologie dans les blocs opératoires qui arrive, mais qui arrive doucement parce que c'est cher, puis il faut se former. Et donc ça, c'est la médecine qui doit progresser.
L'année dernière, je me suis fait opérer au mois de janvier. Le premier semestre a été plus que compliqué, j'ai raté très régulièrement des cours. L'enfer a commencé, clairement, pour parler franchement, des douleurs qui ont mené au fauteuil roulant. Carrément. Donc évidemment, incapacité totale de venir en cours, surtout qu'on n'a pas spécialement envie que nos camarades en fait, nous voient dans cet état. Il faut quand même réussir à l'assumer. Et donc qui a mené en fait, à une nouvelle hospitalisation pour essayer de calmer en fait, ces douleurs. Donc ça a été une semaine de perfusion à la kétamine qui m'a permis de remarcher. C'est toujours quand même très handicapant parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je me suis retrouvée à aller en cours un vendredi matin avec une béquille, en ayant pris de la morphine le soir, de la codéine le matin, parce que les douleurs, elles étaient encore là. Les étudiants qui m'écoutent savent bien que des fois, quand on essaie vraiment d'être sérieux, oui, il y a des cours, mais on ne peut pas se permettre de les rater. On ne va pas demander tout le temps, est-ce que tu peux me passer ce cours ? Est-ce que voilà ? Et ce n'est pas la même chose quand on n'entend pas le cours quand même directement. Et d'arriver et d'avoir forcément des remarques, les gens qui nous regardent, on passe un peu pour quelqu'un de douillette, alors que non, Pas du tout. Je suis venue passer mes partiels l'année dernière avec le fauteuil et mes petites boîtes de tramadol, codéine, opiacés et tous leurs copains. Et c'est vrai que, bon, aller passer un partiel... Donc déjà, on a le stress comme tout le monde, hein, ça c'est normal. Mais où on se dit, j'ai ma morphine à deux pas au cas où il y a le moindre problème. Mais le problème, c'est que si on prend ces antidouleurs parce que la douleur passe un seuil... Ah oui, mais après, les capacités mentales, une fois que t'es... Enfin, on va le dire clairement, t'es shooté à la morphine ou à l'opium, bah, va réfléchir et va faire une disserte. Du coup, c'est quand même très difficile. Je suis très loin d'être la seule étudiante dans ce cas-là. J'ai eu mes règles à 12 ans, avec des douleurs qui sont arrivées dès le départ. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et les premières grosses crises quand j'avais 16 ans, où j'ai consulté, parce que là, je me suis dit, non, c'est pas normal. Enfin, là, je peux pas me lever, je peux rien faire, je pouvais voir personne. Donc, je me suis dit, non, il m'arrive quelque chose. Le médecin, qui m'a absolument pas prise au sérieux, jusqu'à un stade où j'étais à la fac, j'étais en troisième année de licence, quand j'avais mes règles. Déjà, ça dépassait les règles. Pendant 2 semaines par mois, j'étais une vie totalement invalidante. Je ne pouvais plus conduire. Je ne pouvais plus m'asseoir pendant plus de 5 minutes. Je suis partie de cours parce que les douleurs, c'était pas possible. Je tenais plus. Aller au partiel, c'était, il fallait faire tous des business. Combien de cours j'ai dû rater, essayer de les rattraper. Quand on est suivi par les mutuelles étudiantes, en fait, on est jeune, on n'est pas censé être malade. Et quand on est étudiant, c'est sûr, on est riche. Je sais qu'en troisième année, j'ai eu une vingtaine minimum de rendez-vous médicaux sur le second semestre. Avec des examens, coloscopie, coloscanner, toutes les échographies du monde possibles, imaginables. Et puis on les refait pour être, histoire d'être sûr. Donc, et on n'est même pas sûr.
Et on n'est même pas sûr après. Sûr, on final, même pas sûr.
Et quand on vous ouvre, on se rend compte, oh mon Dieu, mais il y en avait partout. À tout âge de la vie, c'est pas simple. Et que si jamais il y a des étudiantes, je sais pas, qui peuvent... un petit peu se retrouver dans ce que je raconte, c'est pas normal.
On va rester encore en colère, c'est logique, hein, on ne pourra pas se défaire de cette colère. Par contre, en effet, on va faire confiance dans le corps médical, on va avancer avec eux. Tous ceux qui sont en train d'étudier là en ce moment et qui sortiront et qui vont peut-être faire la spécialité des gynécologues, s'il y a bien une maladie, la future maladie qu'il va falloir vraiment prendre au sérieux, c'est l'endométriose.
L'endométriose, il y a l'endométriose avant, désir d'enfant, quand on est jeune, donc on gère comme on peut. Et puis là, on ne va rien faire, rien toucher, parce que peut-être il y aura un désir d'enfant. Après, il y a le stade où vous avez un désir d'enfant. Donc là, on va tout faire pour faire... moi, je suis passée par la fécondation in vitro, par tout ça. Donc c'est un parcours très lourd. Et là, on vous prend en compte. Il y a vraiment un gros suivi. Et à l'après, vous avez eu vos enfants. Donc certes, avec FIV, très bien. Mais l'après n'est pas pris en compte. C'est-à-dire qu'on attend le Graal, la ménopause. On a beau poser des questions en conférence en disant « Mais est-ce qu'il y a un protocole de suivi ?» Parce que le problème, c'est que même sous moult médicaments, luteran, luténil, tout ce que j'ai essayé, la maladie continue à progresser. Nous, on s'inquiète, on se dit « Mais est-ce que ça va regrimper sur les urètres ?» Donc, il peut quand même atteindre un rein. Toutes ces questions, on se les pose. Par contre, eux n'ont pas vraiment de protocole de suivi quand on n'a plus le désir d'enfant. C'est un vrai, vrai problème parce qu'on est vraiment obligé de se charger soi-même de sa surveillance. Je pense qu'on peut arriver à des résultats catastrophiques.
Toi qui es étudiante, oui. Est-ce que quand on est jeune... qu'on découvre la maladie ou qu'on parle des symptômes et qu'il n'y a pas forcément tout de suite la volonté d'avoir des enfants, est-ce que la maladie est vraiment prise au sérieux et vraiment bien prise en charge?
Je me suis retrouvée face à des médecins en me disant « Du coup, vous comptez arrêter vos études et faire un enfant ?» Non, non, c'est pas du tout dans les projets de toute façon. Et du coup, c'est vrai que là, on me disait « Ah, bon, c'est bon, si vous voulez pas d'enfant, on pourra revoir ça plus tard. » Je disais « Non, on va pas revoir ça plus tard, parce que déjà, la maladie, j'ai de la chance pour l'instant, mais que si elle n'est pas traitée, elle va progresser, et que je ne veux pas qu'elle atteigne, l'appareil génital, parce que je tiens à avoir des enfants plus tard. » Mais que c'est vrai que je me suis retrouvée face à des médecins qui me disaient « Du coup, t'es pas prioritaire. » Parce que t'es étudiante, toi tout ce qui t'intéresse plus ou moins c'est de pouvoir passer tes partiels. Non, ce qui m'intéresse c'est de pouvoir vivre au quotidien.
Potentiellement un risque d'avoir des problèmes de fertilité. Et les parcours de PMA c'est pas agréable, c'est pas dit que ça marche. Ça pose des questions métaphysiques, humaines, très particulières, faut pas banaliser ça. Et le fait de vouloir ou de pas vouloir un enfant, les femmes qui ont de l'endométriose doivent vraiment se poser la question et le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on lutte pour que le dépistage soit tôt, parce que dans notre société où on fait les enfants et on commence à y penser à la trentaine, si on attend d'avoir le CDI et plus de 30 ans. Avec les 6 ans de diagnostic, on est à 40. Et là, la fertilité, le pic de fertilité, je crois qu'il est autour de 28 ans. Donc, autant vous dire qu'avec l'endométriose, ça chute.
Suivant les protocoles, en plus, on peut ou pas faire proliférer encore l'endométriose. Donc, moi, en l'occurrence, ça a proliféré. Ça s'est mis là où il ne fallait pas. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il se passe, en fait, on apprend de se rapprocher de l'association Endo France. Moi, m'a aidé à avoir un recul que je n'avais pas.
On n'éloigne pas les patientes de leur médecin. On leur donne l'information pour leur donner toute l'information qui leur permettront de faire leur choix.
Avec ces échanges entre Endo Girl, du coup, la personne prend conscience qu'éventuellement, il ou elle peut rentrer dans les critères de la maladie et peut donc être orienté à un médecin sérieux qui pourra diagnostiquer. Si un médecin vous dit non, c'est dans la tête, et ben vous en consultez un autre.
Et vraiment, c'est primordial d'être suivi par un médecin. C'est vrai qu'on a rencontré énormément de jeunes femmes qui souffrent en silence et non, c'est pas ce qu'il faut faire. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'avais 16 ans et je le regrette. Vraiment, parce que sur le moment, je savais que ce que j'avais, c'était pas normal, que je ne contrôlais plus mon corps, que ça avait des conséquences sur ma vie. Là, j'ai su qu'il y avait quelque chose. Et d'un autre côté, c'est vrai que c'est plus ou moins rassurant quand on vous dit que non, vous n'avez pas de maladie. Mais si, et il faut vraiment absolument qu'un médecin pose le diagnostic. D'ailleurs, il y a des contacts sur le site d'Endo France. Il y a des centres référents. Il faut absolument aller les voir, passer les examens, mettre un nom sur la maladie et voir l'étendue avec des examens. Et après, en fonction de ce qu'on peut voir avec les examens, on peut vous proposer des traitements. Il faut le médecin, il faut quelque chose avec vous et il faut un diagnostic.
Et là, on devient acteur de sa maladie et non spectateur. On ne subit plus, on a des moyens.
À partir du moment où on est informé, on peut faire ses propres choix.
Très important.
Plus on a d'informations, plus on est maître de son destin et on peut s'orienter vers tel ou tel spécialiste, faire ou ne pas faire la PMA, faire ou pas un enfant. On le sait, on sait ce qu'on a et on essaie de trouver des solutions et s'adapter par rapport à ses choix personnels. Quand on ne sait pas, on se retrouve pendant 5 ou 10 ans à attendre un bébé qui ne vient pas, on se retrouve à se rouler par terre, on se retrouve à prendre des médicaments qui finissent par nous abîmer le foie. En France, c'est une femme sur 10. J'ai fait le petit calcul pour
Rennes.
Rennes et j'ai trouvé 3800 potentiellement filles concernées sur les étudiantes en fait.
Qui s'ignorent peut-être.
Qui s'ignorent ou qui découvriront dans les années qui viennent malheureusement.
L'endométriose est donc très répandue et ses symptômes ne sont pas anodins. Il s'agit d'une maladie à prendre au sérieux et il est primordial de vous diriger vers des professionnels de santé, mais également vers Endo France si vous avez besoin d'un accompagnement. Pour plus d'informations sur la maladie ou pour trouver des contacts, vous pouvez vous rendre sur le site endofrance.org.